Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polothèque
et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui David Lescot pour la pièce « Ceux qui restent » que vous mettez donc en scène au Montfort Théâtre du 5 au 23 mars dans le cadre du Festival des Illusions avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Cette pièce, certains de nos auditeurs en ont déjà entendu parler puisque nous avions reçu l'année dernière Paul Fehlenbock qui est avec Volodka Blit-Robertson, l'un des deux personnages de Ceux qui restent. Peut-être faut-il expliquer un peu le dispositif de cette pièce, David Lescot. Il s'agit en fait d'entretiens que vous avez réalisés avec deux survivants du ghetto de Varsovie, Paul Fehlenbock et donc Volodka Blit-Robertson, qui étaient des enfants à l'époque, des entretiens qui ont été traduits, scriptés et qui sont joués sur scène par deux acteurs, Marie Desgrange et Antoine Mathieu. C'est à peu près ça ?
Oui, exactement.
Vous êtes donc auteur, musicien et metteur en scène, David Lescot. Vos pièces ont été montées au Théâtre du Rond-Point, aux Abbesses, au Théâtre de la Ville. Et vous êtes également un habitué du Festival d'Avignon. Comment vous êtes arrivé à cette pièce ? C'était un désir de votre part que de traiter du sujet du ghetto de Varsovie ou c'est la rencontre avec ces deux survivants qui vous a décidé ?
Non, c'est la rencontre. Je n'avais pas décidé au départ de faire un spectacle pour commémorer, par exemple, les 70 ans de l'insurrection du ghetto, mais c'est à cette occasion-là que ça s'est fait. C'est plutôt eux qui sont venus vers moi, la fille de Paul Fehlenbock, Véronique, avec qui je travaille. Et donc, je connaissais un peu son histoire, et elle m'a demandé si je pouvais imaginer quelque chose, un spectacle, à partir du récit de l'histoire de son père. Et elle m'a parlé aussi de sa cousine, enfin la cousine de son père, Volodka. Et j'ai lu un peu un récit très court qu'il avait écrit simplement sur son histoire, sur son trajet dans le ghetto. Et c'est en lisant certains détails que je me suis dit qu'on pourrait porter ça sur une scène de théâtre.
Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement vos deux témoins, vos deux personnages?
Oui, c'est des personnages assez intéressants, même par rapport à l'histoire du ghetto, puisque ils sont de la même famille, du côté de la mère de Volodka. Et la famille de Volodka, c'est une famille du Bund assez importante. Son père, c'est Lucian Blit, et c'était un dirigeant du Bund. Et sa mère était à Linke, c'est-à-dire qu'elle était dans un parti plus à gauche que le Bund, mais contrairement au Bund, sioniste. Donc c'était aussi intéressant pour avoir un peu toutes les diverses obédiences, les diverses appartenances politiques à l'intérieur d'une même famille. Voilà, les parents militent à des endroits différents, mais ils sont très engagés politiquement. Ils ont donc des relations avec la résistance aussi juive, polonaise. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ils peuvent s'échapper du ghetto, puisque les organisations les prennent en charge, parfois les perdent, parfois les retrouvent. C'est ça qui est complètement insensé dans cette histoire. Mmh. Et on voit passer, parce que c'était des amis des parents, les grands personnages finalement de l'insurrection du ghetto, c'est-à-dire Marek Edelman, Michal Klepfisch, Alla Margolis, voilà.
Combien de temps, on dirait, les entretiens qui sont à l'origine de cette pièce ?
J'ai été très vite.
C'est vrai ?
Oui, parce que je voulais qu'on soit toujours au présent dans la relation entre l'intervieweur et l'interviewé. Et j'ai pensé qu'on perdrait ça si jamais je faisais, par exemple, je sais pas, 10 séances sur 6 mois. Qu'on essaierait d'épuiser la totalité du récit et que finalement l'entretien aurait moins d'importance. Or là, puisque l'idée de le porter sur scène et de le faire porter par des acteurs, elle précédait déjà les entretiens pour moi. Je voulais être très réactif à ce qu'on me racontait. J'avais préparé des choses, mais je voulais me laisser aussi une marge de réaction, de discussion avec le témoin. Donc à chaque fois, j'ai passé une journée avec eux.
D'accord, mais c'est ce qui est assez étonnant, et là on se demande si vous avez respecté à la lettre les transcriptions, ou bien si vous avez transformé certains passages pour mieux les adapter au théâtre, mais il y a certaines questions paraissent très durs, comme quand vous demandez à Vlodka, par exemple, pourquoi sa mère l'a laissée seule à Varsovie. Ça, c'est des questions que vous avez réellement posées.
Ah, bien sûr, bien sûr. Ça c'est en réécoutant les entretiens, où il y a quand même plusieurs heures d'entretien, c'est quand même déjà une matière assez importante. Puis c'est leur histoire. Et puis ils m'attendaient. C'est-à-dire que je savais qu'ils avaient préparé aussi ces entretiens. Donc je pensais qu'en une journée, on pourrait vraiment aborder. Et j'étais sur une période relativement de quelques années. Hein. Je ne voulais pas embrasser leur vie entière.
Vous parlez quand même de l'enfance.
C'est leur enfance.
Avant la guerre.
Oui.
Et ça va
de leur naissance jusqu'au moment où ils sortent du ghetto et où... Ils sont préadolescents, disons, et voilà, ils sont tirés d'affaires. Ça, c'est en tout cas physiquement, on va dire. Mais les questions, non, c'est les questions qui ont émergé dans la discussion. C'est vrai que les parents de Vlodka sont partis à l'Est dès que la guerre a éclaté. Et je me suis surpris à lui dire, mais donc les parents partent, laissent les enfants. Et là, on discute assez longtemps, et moi, assez obstinément, je reviens là-dessus. Et en fait, elle est tout simplement en train de m'expliquer ce que c'est que l'engagement politique. Mmh. Et moi, je suis... Moi qui ai toujours employé ces mots, et pour qui ça a été quelque chose d'important, peut-être que là, je le comprends vraiment. Mais avant de le comprendre, ça m'intrigue particulièrement.
Comment vous avez travaillé sur ce matériau ? Est-ce que vous avez pris le parti pris de respecter complètement les souvenirs qui vous ont été livrés ? Ou alors vous avez travaillé avec des historiens pour vérifier certaines dates, certains événements ?
J'ai demandé à un historien, j'ai demandé à Tal Brutman de relire les interviews et d'une certaine façon de me dire ce qu'il pensait des témoignages. Comme s'il avait un peu expertisé les témoignages, finalement. C'était important pour moi. C'est une amie, Claire Zalk, qui est historienne aussi, qui m'a conseillé de m'adresser à Tal, parce que c'est un très bon spécialiste de cette période. Et donc, il a relu, il m'a dit ce qu'il en pensait, il m'a dit quels étaient les points qui, surtout dans leur formulation, lui paraissaient devoir être... modifié éventuellement, mais il y avait assez peu de choses.
C'était assez fiable. Parce que c'était des enfants quand même. Donc ouais. J'imagine qu'ensuite, ils ont eux-mêmes travaillé sur cette histoire, qu'ils s'y sont intéressés.
Oui.
Mais ce sont à la base des souvenirs d'enfance.
Oui, bien sûr. Des images, ce qui leur est arrivé, les récits. Paul avait aussi son frère qui avait 12 ans de plus, Georges. Et donc, qui lui a joué un rôle après... après la guerre, qui a travaillé avec les soviétiques, par exemple. Donc, quelqu'un qui a quand même eu une approche très, très étroite avec la réalité politique et historique. Mmh. Et je pense que ça a été aussi un passeur de cette histoire pour Paul.
Qu'est-ce que ça apporte, d'après vous, David Lescaut, cette scénarisation, ou tout du moins cette mise en scène, par rapport à un témoignage classique de type documentaire ? Qu'est-ce que vous avez voulu dire en mettant ces mots dans la bouche d'acteurs ?
Mon domaine, c'est le théâtre, donc je réfléchis dans les limites du théâtre et dans les pouvoirs du théâtre aussi. C'est-à-dire que je pense que je voulais... Je voulais un théâtre documentaire, un théâtre de témoignages. Ça m'intéressait en soi déjà d'aller vers cette forme-là, de l'explorer, de trouver quelque chose. Et voilà, c'est un peu instinctif au départ. Je me disais, il faut qu'il y ait un procédé de mise à distance, mais qui soit en même temps une incarnation. C'est à moitié de la distance et à moitié de l'incarnation. C'est-à-dire qu'il faut que ces paroles soient portées, il faut qu'elles soient portées par des acteurs, mais il faut que ces acteurs soient étrangers à l'histoire. Et donc, pour pouvoir s'en rapprocher, finalement. Parce que quand on est... Par exemple, c'était important pour moi que les deux acteurs ne soient pas juifs. Il y avait quelque chose... Parce que je pense aussi que j'ai envie que cette histoire, elle s'adresse pas seulement aux juifs, évidemment, c'est un sens profond de ça. Et si déjà c'est porté par des acteurs qui sont pas directement liés à cette histoire familialement, il y a déjà une partie du trajet qui est accomplie. Et il y avait l'âge aussi des acteurs. C'est-à-dire que je ne voulais pas que ça ressemble au personnage. Donc je n'ai pas décidé de confier ça à des acteurs de 70 ans ou de 60 ans, ou de les déguiser, ou de leur demander d'imiter, ni même d'écouter la manière de parler des témoins.
Ils n'ont pas écouté les enregistrements, par exemple ?
Non.
Ils sont appropriés à partir du texte directement ?
Non, à un moment, Marie Desgranges a eu envie, mais par curiosité, d'écouter la voix de Vlodka, mais elle n'a pas du tout travaillé là-dessus. Et Antoine, pour Paul, n'a pas écouté les enregistrements.
Mais c'est le plus troublant, c'est ça, c'est ce que vous évoquiez là à l'instant, c'est ce décalage temporel entre l'âge des acteurs qui sont sur scène et les souvenirs qu'ils racontent, et qui provoque une proximité beaucoup plus grande avec les événements, parce qu'on voit des gens qui ont entre 30 et 40 ans, voilà, et qui parlent d'événements qui du coup se rapprochent de nous, qui se rapprochent peut-être de 20, de 30 ans.
Oui, parce
ça,
qu'ils
c'est
sont,
troublant.
Oui, parce qu'ils sont, ils sont à un âge où on fait les choses, pas à l'âge où on se souvient des choses. Et ça, c'est important. Ils sont les êtres qu'ont été potentiellement Vlodka et Paul. C'est-à-dire que...
Oui, dans les années 50-60.
Et oui, voilà. Il y a quelque chose de ça. Ils sont dans leur vie, quoi. Ils sont au milieu de leur vie, on va dire. Et donc, ils sont actifs, ils sont encore jeunes. Et c'était... Tout ça, encore une fois, c'est intuitif. On théorise pas avant de le faire. On se dit que cette équation, elle va sans doute fonctionner. Mais il y a un petit risque. Voilà. Mmh. Et puis, on ne sait pas tout ce que ça va produire non plus.
Ça, en l'occurrence, oui. Je trouve une des choses, en dehors évidemment de la qualité du témoignage, j'allais dire, du texte, cette temporalité-là, je trouve que c'est une des choses les plus saisissantes. Mais j'imagine que ça a dû être aussi troublant, justement, pour Paul Fehlenbock et Vlodka, d'assister à ça, non ? Vous avez
discuté
avec eux
de Oui, bien sûr. On s'est demandé quelle était la meilleure manière de... pour eux d'assister à cette représentation d'eux. Et on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'ils découvrent le spectacle en même temps que tout le monde. Et donc, on les a invités à une répétition, à un filage, comme on dit, c'est-à-dire quand on joue le spectacle en entier sans spectateur. Et donc, on l'a joué pour eux, ils étaient tous les deux. Ils ont écouté ça, ils ont regardé ça. Et puis, c'est bon, ils étaient du coup, ils étaient préparés. Et je crois que Paul a été notamment très 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 saisi par l'interprétation d'Antoine. Il a même dit qu'il avait l'impression de se voir parler lui-même. Et puis et je sais qu'il y a 3 jours, Vlodka, qui était à Paris, a demandé à Marie de venir la voir à son hôtel parce qu'elle avait envie de parler avec elle. Elle avait envie d'échanger un peu avec elle. Donc là, c'est plus intime, c'est plus secret. Je ne sais pas exactement tout ce qu'elles se sont dit, mais en tout cas, elles ont parlé, elles ont pris le thé toutes les deux. Voilà. L'autre qui avait envie de ça.
Vous avez déjà travaillé sur l'enfance, alors à une autre période, mais avec la Commission centrale de l'enfance, c'est ça, sur les colonies d'enfants organisées par les juifs communistes après-guerre. C'est une thématique qui est important pour vous, qui est toujours relié d'une certaine manière à la guerre également ?
Ah oui, bien sûr. C'est... Disons qu'à certains moments de mon parcours, moi qui suis assez actif, on va dire, un peu comme ça, suractif même dans le théâtre, dans les créations, dans ce que je fais, il y a des moments où je me sens happé, interpellé par ça, par cette histoire-là qui est la mienne. Et là, je mets un peu les autres choses de côté, je me consacre à ça. C'est étonnant parce que c'est un rapport essentiel avec moi, avec ce que je fais, avec ce que ça raconte aussi. Et c'est un peu presque comme des aventures parallèles. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est important et en même temps, j'arrête tout le reste pour le faire. Quoi.
Par rapport à vos autres créations,
oui,
vous dites ?
Oui. Mais ces questions, elles reviennent aussi dans mes autres créations, plus parfois de manière plus furtive ou plus accidentelle ou plus diffuse. Mais bon, voilà, il se trouve que deux fois, je me suis consacré vraiment, vraiment à cette histoire et ça a donné ces deux objets-là qui sont à part, mais qui sont aussi les moments où je me ressource dans mon théâtre. C'est-à-dire que j'évacue tout ce qu'il y a autour. Il n'y a rien d'autre qu'une chaise, une personne assise dessus, ou deux, qui sont dans un rapport frontal très direct avec le spectateur. Et c'est comme si c'était un peu le noyau du fonctionnement théâtral et que c'était bien d'y revenir pour mieux réfléchir à ce qu'on fait, quoi.
Sur cette pièce, ce qui reste, qu'est-ce que vous diriez? C'est l'aspect historique, puisqu'on apprend énormément de choses par le trajet donc, de ces deux témoins sur la tragédie du ghetto de Varsovie. C'est l'enfance, c'est les liens familiaux, c'est la perte, c'est la mémoire. Qu'est-ce qui est au cœur de cette pièce?
Oui, c'est l'enfance. C'est l'histoire... Peut-être une contribution à l'histoire, j'espère, mais avec les armes que le théâtre détient, c'est-à-dire par le trajet individuel, par la singularité des histoires personnelles, par les détails concrets, matériels. Ça, c'était une ligne très forte dans les questions que je posais. C'est-à-dire que j'essayais de faire en sorte qu'on se représente les choses de manière très concrète.
Les lieux également.
Les lieux.
La ville, le ghetto,
voilà,
les appartements. Les cachettes.
Oui. Les objets. Et je m'aperçois qu'un des liens entre les deux histoires, c'est les objets. Les casques troués qu'on répare. La manière dont on s'éclaire. Etc. Donc ça, c'était une ligne importante. Réfléchir aussi à ce que peut être un théâtre de témoignage. Donc ça, c'était quelque chose de qui guidait aussi, qui guidait pas mal ma réflexion. Et puis effectivement, la mémoire, c'est-à-dire, je savais que pour les acteurs, la mémoire, ça allait être l'outil, mais cet outil allait être vraiment très très sollicité. Et il y a un gros risque pour les acteurs à apprendre un texte comme ça. C'est beaucoup. Ils sont tout seuls, en plus, ils sont très exposés. Et puis la mémoire des témoins, parce que cette mémoire, elle est le moyen qu'on a d'accéder à ces histoires, de savoir les choses. Et on voit aussi que ces mémoires, elles sont parfois hésitantes, elles sont parfois défaillantes sur des détails, sur des dates, sur l'ordre des choses surtout. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas tellement les dates, c'est quel événement a précédé l'autre. Ça, c'est très dur à remettre en ordre. Ça dit beaucoup de choses du psychisme, de la manière dont notre cerveau fonctionne et dont notre mémoire fonctionne. Et je sais que la mémoire, c'est quelque chose qui est indispensable pour constituer l'histoire, mais il faut accepter aussi que cette mémoire, elle soit parfois hésitante et qu'elle ait des failles, parce qu'un témoignage qui n'en aurait pas, c'est ça qui serait un témoignage suspect.
Il y a un troisième personnage qui est joué par l'un des deux acteurs, alternativement, c'est l'intervieweur, on va dire, qui a un rôle aussi assez fondamental, puisque c'est lui qui pose les questions, qui ont l'air parfois presque naïves sur est-ce que vous alliez à l'école, est-ce que... Donc, les questions que vous avez posées, vous... Quelle place il a, quel rôle il joue en vérité, ce personnage?
Je pense que des spectacles sur des témoignages, il y en a eu pas mal, il y en a eu beaucoup. Mais justement, je voulais pas donner que le témoignage. Je voulais donner le dialogue, l'interrogation et la réponse, et cette dynamique là. Pour moi, elle était importante, c'était vraiment la forme. Donc, et ça, encore une fois, je l'avais décidé avant même d'aller leur poser des questions. Et je ne suis pas un spécialiste de l'histoire du ghetto. Je sais un certain nombre de choses, j'ai des repères historiques, un peu, mais voilà, suffisamment pour pouvoir suivre l'histoire, pouvoir distinguer, par exemple, l'insurrection du ghetto de Varsovie et l'insurrection polonaise de Varsovie qui a eu lieu un an après. Bon, ça c'est important quand même de savoir ce genre de choses, et puis des repères quand même dans l'histoire aussi des juifs socialistes, voilà, bon, ça je connais un peu.
Oui, donc, la politique donc, a un rôle important.
Oui, la politique a un rôle très important dans le spectacle, vraiment, c'est un des sujets. Et après, bon, bah, y a des choses par lesquelles je suis surprise, il y a aussi des opinions que je peux avoir... qui sont mises à mal par les témoignages eux-mêmes, des choses que je découvre. Donc je réagis effectivement de manière très candide à certains moments. Et eux, ça leur permet de me rappeler des choses qui sont
évidentes.
Des
choses du quotidien, oui, oui. Qui sont évidentes pour eux et qui sont effectivement évidemment complètement inconnues de la plupart des gens. Parce que ce quotidien-là d'enfant dans le ghetto, effectivement, ne correspond pas forcément à l'image qu'on peut en avoir.
Non, non, non. Et puis les sentiments aussi, les sensations, ouais. Parce que parfois je leur demande, voilà, est-ce que là vous aviez peur ? Et parfois ils me disent, je sais pas, je me sentais protégé. C'est là qu'on voit aussi que probablement le pire moment dans une guerre, c'est la fin. C'est la fin de la guerre. C'est-à-dire, c'est le moment où l'immédiate après-guerre, là c'est souvent le plus dangereux, le plus terrible, parce que là tout est détruit avant qu'un ordre succède à l'autre. Il y a plus d'institutions, il y a plus de repères. Là on est dans un état sauvage, et là c'est particulièrement dangereux. Et les sentiments de désespoir véritablement qui sont exprimés par les témoins dans le texte, c'est comme par hasard à ces moments-là qu'ils apparaissent.
Et puis la découverte concrète de la perte.
Oui.
De
oui, bien sûr.
Certains membres de bien la sûr. Famille. De... Vous l'avez dit, David Lescaut, c'est un thème sur lequel vous travaillez depuis un certain temps. Il y a d'autres projets actuellement en cours. Je crois qu'il y a cette pièce, Nos Occupations au Théâtre des Abbesses, qui sera jouée au mois de mai. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, alors ça, c'est un texte que j'ai écrit. Donc là c'est une fiction, mais d'une certaine façon, ça peut recouper cette question, puisque ça parle d'un réseau de résistance.
Mais
alors c'est moins précisément situé sur le plan esthétique. En tout cas, on reconnaît pas forcément les vêtements, les costumes, etc. Mais ça m'a été inspiré, oui, par l'histoire des résistances françaises et surtout des techniques, voilà, de renseignement, de camouflage, d'action. J'ai toujours été très intéressé par ça, et j'ai pensé que ça ferait une bonne matière pour le théâtre. Donc on entre à l'intérieur d'un réseau et on les voit fonctionner, mais ça pourrait parler de dissidents d'aujourd'hui ou d'activistes d'aujourd'hui aussi.
D'accord, je vous remercie beaucoup, David Lescaut, d'être venu, et j'invite vivement les auditeurs à aller voir la pièce « Ceux qui restent » au Montfort Théâtre, dans le 15e, à Paris, donc jusqu'au 23 mars, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'était Mémoire vive, vous pouvez retrouver l'émission sur le web, radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.